Émission On en jase, votre émission du midi, les midi une minute. Quelle journée, encore une fois, Pascal CV.
Oh oui, c'est qui le boss, Jeff?
C'est qui le boss? Le boss, c'est les femmes.
Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça, on peut se le demander dans différentes sphères de notre vie. Moi, j'avais un boss qui disait souvent ça.
C'est vrai.
Y a-t-il un pilote dans l'avion ou c'est qui le pilote dans l'avion pour dire, bon, c'est qui chapeaute ça? Là? Parce que pas qu'on cherchait la tête de Turc quand ça fonctionnait pas. Qui prend le lead? Même en politique, on cherche.
Ouais, et qui est capable de gérer adéquatement, justement, une crise? On parlait de ça hors d'onde, puis je suis certain qu'on va en parler là, avec Victor Henriquez dans quelques instants. Mais quand c'est chaud, quand il y a une crise, là, c'est là qu'on voit ceux qui sont capables d'assumer du leadership et s'en sortir. Puis, moi, je suis toujours, c'est mes moments préférés.
Ben oui, mais la gestion de crise est un cours en tant que tel à l'université.
Exactement. Gestion de crise, gestion de changement. Il y a beaucoup de gens que le fameux planifier, organiser, diriger, contrôler, ils ne l'appliquent jamais. Puis, ils se demandent, ah, pourquoi ça ne marche pas quand j'essaye? Ben, c'est parce qu'il y a des étapes. Des étapes logiques à faire, donc, parce qu'on va justement là, revenir là, avec Victor Henriquez là, concernant le départ de Pablo Rodriguez et sa conférence de presse. Mais avant, Pascal, je veux juste qu'on en parle parce que, justement, quand je dis ça bouge, j'aime ça parler des coulisses de l'émission, moi et toi, on fait le matin, on fait le midi, puis là, t'arrives, tu me dis « Jeff, faut parler à Roger Ferland », puis on va l'avoir après le maire de Québec à 13h15. Donc, manquez pas l'heure de 13, hein? Bruno Marchand de 13h à 13h15, puis après ça, Roger Ferland. Puis dans la prochaine heure, ben Victor Henriquez, puis après ça, Luc Laliberteux. Putain, chaud. Comme chaud finalement notre affaire.
Énorme chaud aujourd'hui parce que énorme nouvelle. Écoute, dans un dossier dont on parle depuis plusieurs années maintenant qui a marqué différentes générations, c'est celui de l'affaire Cédrica Provencher.
Ah oui.
Ce qui vient de tomber avant qu'on entre en onde, c'est quelque chose de majeur, d'intéressant quand même. Il n'y aurait aucun témoin dans l'affaire Cédrica Provencher qui aurait réussi de façon formelle à identifier Jonathan Bété. Jonathan Bété, c'est... En plus d'être une cible policière, assurément la cible du public par excellence dans le dossier, la SQ a montré la photo de Jonathan Bété à seulement 2 des 5 témoins qui ont été rencontrés, des témoins oculaires, des gens qui avaient vu quelque chose, pour l'identification du dit suspect. Ça veut dire que 2 sur 5 n'ont pas eu la chance de regarder des photos et donc de voir peut-être et potentiellement le visage de Jonathan Bété, puis peut-être l'identifier. Donc, est-ce que c'est pour ça que formellement, on n'a pas été capable de l'identifier? Écoute, c'est une question importante dans le dossier. Mais c'est des nouveaux documents de cours dans lesquels on apprend tout ça. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous étiez là quand on a parlé de ça, mais bon, c'est sûr, Jonathan Bété ne reconnaît toujours pas sa culpabilité là-dedans. Est-ce qu'il est coupable? On ne le sait toujours pas, nous aussi, en tant que public, qui suivons l'affaire. Je pense que les policiers non plus, mais la famille Bété réclame 10 millions de dollars à la SQ, à des policiers chargés de l'enquête sur le meurtre de Cédrica Provencher et aussi au procureur général du Québec. On reproche d'avoir tout fait pour que la population croie que Jonathan Bété était un pédophile et un meurtrier. C'est pas mal le pouls de la société actuellement dans le dit dossier. On ne peut pas nier ça.
Non.
Cependant, eux sont comme tannés. Ils ont décidé en poursuite. Et c'est pour ça qu'on a de nouveaux documents. On essaie aussi de se défendre du côté des policiers et du procureur général.
Ben oui.
Ce qui fait en sorte qu'il y a des documents qui sont déposés dont on n'avait jamais eu connaissance.
Oui, et une des raisons, là, Pascal, aide ma mémoire, que on l'a identifié également comme, justement... Avec de la pornographie juvénile, c'est qu'on avait trouvé des choses dans son ordinateur.
Hein? Oui, puis tantôt, quand j'en ai parlé, je me souviens de ça. Moi, j'ai quand même une mémoire pour des dossiers importants comme ceux-là. Puis je l'ai lancé à Maxime, puis je suis allée revoir parce que je voulais pas induire le public en erreur. C'est en 2015. En 2015, on savait comme plus trop quoi faire, on dirait, du côté des policiers, supposition. Mais on a utilisé un angle d'attaque intéressant, mais qui a nuit parce que... Des enquêteurs ont, fait des perquisitions, donc chez Jonathan Bété. On a ramassé des ordinateurs et tout ça. Ordinateurs dans lesquels ça menait à des chefs d'accusation qui ont pesé contre lui, des chefs d'accusation, effectivement, en matière de pornographie juvénile. Et en décembre 2015, alors, vous savez, c'est là où les restes de la fillette ont été retrouvés. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avancer un petit peu. Par contre, Jonathan Bété a été accusé en 2016, mais acquitté parce qu'on voyait ça comme une opération de pêche à l'information et non quelque chose qui était dans les règles de l'art, c'était plutôt vu comme abusif et des mandats étaient invalides là-dedans. Donc, on a déclaré que ça tombait.
En plein ça. Donc, c'est ce qui explique là, tout ce branle-bas de combat. On va parler de tout ça avec Roger Ferland à 13h15 parce qu'il y a somme toute ou plusieurs erreurs policières dans ce dossier-là. Là. Fait qu'il faut regarder le tout avec Roger.
Parce que j'ai l'impression qu'on voulait avancer là-dedans, mais c'est aussi, et on en parlera avec lui, tous ceux qui vont témoigner au procès, qui mène l'affaire encore plus intéressante qu'elle était. Jonathan Bété va témoigner en passant au procès.
Ah, ça va être intéressant.
Et à la barre, on va accueillir bon, des amis, un garagiste, des collègues de travail, l'ex-ministre de la Justice, Jacques Dupuis, même que le chroniqueur judiciaire Claude Poirier et l'auteur de la série District 31, Luc Dionne. Ils seront là à la barre des témoins. C'est des témoignages qui devraient durer au moins 22 jours. Je pense qu'on va avoir du pain sur la planche.
Donc, on se lance dans un long processus, Pascal Sévic, qu'on va évidemment suivre attentivement ici à Boulevard 102.1. Place au caucus.
Le caucus. Boulevard. Le caucus. 102.1. Voici Antonin Iaccarini.
Eh bien non, c'est Victor Henriquez qui est avec nous du lundi au jeudi de midi à 12h30 pour cette semaine et la semaine du 5 janvier. Victor, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres, comment ça va?
Ça va très, très, très bien. Écoute, je pense que je nous qualifierais de sur l'énergie du désespoir. On va arriver à vendredi. Non, mais c'est une grosse semaine.
Je l'ai pas dit en onde, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on est un peu dans nos fins de réserve.
Ah, je me suis couché tard, je l'avoue, je suis dans les fins de réserve. J'ai hâte d'aller piger dans le lunch de Noël à midi et demi, parce que c'est notre grand lunch de Noël ici à l'Hôtel Communication. Ceci dit, je me plains pas, j'adore faire de la radio, j'adore être avec vous, les auditeurs. Et merci au patron de me faire confiance.
Tu le mérites, Jeff, tu le mérites. Je pense que c'est normal aux heures auxquelles on se lève ces temps-ci.
Exactement.
Avec le midi. Puis surtout, on a des émissions d'actualité qui nous demandent du jus de cerveau, j'appelle ça comme ça. Victor, tu es sûrement d'accord avec nous que c'est effervescent de faire de la radio en ce moment, mais c'est vrai que tantôt, on déparlait, puis pas à peu près dans notre dernière heure.
Vrai.
Puis, ben là, c'est
des marathoniens de la radio.
Ouais, c'est ça. Puis là, on a le maire marchant à 13h.
On a eu Legault.
On va faire jouer des extraits de François Legault sur ce qu'il a dit pour que le maire marchant parle contre François Legault. Fait qu'il faut être alerte. On n'a pas le choix. On peut rien échapper.
Mais on va bien. Mais
on va bien. Très bien. On est full heureux. Puis on est surtout plus heureux que Pablo Rodriguez avec les larmes aux yeux en conférence de presse. Victor.
Aïe, aïe. Quelle histoire, hein? Puis ça m'a rappelé, vous savez, moi, j'ai fait de la politique, puis j'ai profondément aimé la politique. Hein? Donc, ça m'a rappelé comment c'est dur de quitter la politique. Ça m'a rappelé comment c'est un secteur qui est très émotif. Puis les gens qui nous écoutent, des fois, peuvent se demander comment ça se fait que les politiciens ont l'air aussi émotifs. C'est qu'il y a un vrai esprit de famille qui se tourne autour de ça. C'est des jobs très prenants. C'est du 7 jours semaine. On se donne corps et âme. Puis dans le fond, c'est très authentique. Hein. C'était pas toi-même en politique, t'as aucune chance de réussir. J'écoutais Pablo Rodriguez, puis je me disais deux choses. La première, c'est... tu sais, Pablo et moi, on a une histoire qui se ressemble. Il parlait de son père, réfugié politique. Moi, c'est un peu la même histoire que j'ai. Puis je me dis, mon Dieu, il y avait une belle histoire à raconter. C'est juste dommage que ça soit passé comme ça. Puis tu sais, quand on parle de l'entourage en politique, mon Dieu que c'est important, parce que moi, je continue à penser que Pablo Rodriguez, personnellement, ne savait pas ce qui se tramait derrière lui. Mais s'entourer, savoir s'entourer, puis être rigoureux là-dessus, c'est aussi une qualité essentielle. Puis la deuxième chose que je me disais, c'est, mon Dieu, les libéraux sont donc bien rendus bons pour brûler leur chef. Puis tu sais, je pensais à Dominique Anglade, je pensais à Pablo, puis je pense à tous les autres qui sont passés, puis je me disais, hey, mon Dieu, attends une seconde, là. C'est toutes des gens qui, sur papier, étaient des chefs hyper intéressants. Mm-hmm. Tu sais, Dominique Anglade, c'est expérience économique, expérience de ministre, Pablo Rodriguez, expérience au fédéral, toutes des gens avec beaucoup d'expérience, on dirait qu'ils arrivent dans ce poste-là, et quelles que soient les raisons, ils frappent un mur. Puis ça va être à réfléchir pour les prochains chefs, les candidats. C'est toute une job être chef du Parti libéral du Québec en ce moment parce qu'il y a toute une reconstruction à faire. Depuis, dans le fond, la défaite de Philippe Couillard, c'est comme si ça devenait hyper compliqué de durer dans ce poste-là.
Bien, quelqu'un nous écrit, moi j'ai dit beaucoup de niaiseries en commentant sur vos textos, mais honnêtement, je me demande si Pablo Rodriguez a été victime d'un système crasse.
C'est possible, hein? C'est possible. En même temps, il a fait son organisation a commis ses propres erreurs. Là. Je veux dire, il y a une question factuelle. Puis ça, je vous l'ai dit hier. T'sais, moi, il a démissionné au moment où il devait démissionner parce que si tu n'as pas respecté les règles de la course, tu n'es plus valide. C'est simple de même. Mais ça reste que dans les 6 mois précédents, ça n'a pas été facile non plus. Là. Donc oui, il y a comme une espèce de... Il y a un système qui doit s'améliorer. Les libéraux doivent faire un examen de conscience extrêmement important. Paul Saint-Pierre-Plamondon a fait une intervention sur X dans les dernières minutes. Puis il a dit que bon, il respectait, qu'il croyait d'ailleurs Pablo dans son intégrité. D'ailleurs, chapeau à PSPP d'avoir reconnu justement que son adversaire n'est pas reconnu coupable de rien, puis de croire en son intégrité. Au contraire, ça lui permet à lui d'attaquer aussi l'intégrité du Parti libéral, disant qu'il y a une culture de corruption depuis les années 70. Bon, je pense qu'il exagère un peu, honnêtement, mais c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Sauf qu'en même temps, les libéraux vont devoir s'affronter à ça. Le fait que leurs adversaires vont faire valoir pendant les prochains mois que la culture libérale, elle scrappe, excusez-moi de le dire comme ça, et que c'est ça le problème. Puis le prochain chef va avoir tout un défi. Alors, Pablo va retrouver sa famille. On a vu sa femme, sa fille en arrière de lui. Il est parti sans répondre aux questions. Puis là, il va retrouver un certain anonymat. Aujourd'hui, je pense qu'il nous a fait une espèce de biographie politique parce que c'était probablement la dernière fois, d'ailleurs, qu'on le voyait avant un bon moment.
Non, en effet. On écoute d'ailleurs une partie de son discours où il explique là, qu'il démissionne. Mais Victor, pour mériter tout ça, le Parti libéral va devoir faire un ménage parce que c'est clair que ces organisateurs-là venaient pas juste du Parti libéral du Canada non plus, là, qui ont contribué à du financement qui, jusqu'à présent, demeure douteux.
Oui, mais tu sais, moi, je me pose une question. Là, l'enquête du PAC va faire son travail. Les enquêtes vont ressortir. Il va falloir... Moi, si je suis au Parti libéral du Québec aujourd'hui, je mets de la pression sur tout le monde pour que ça sorte vite. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question. Est-ce que c'est une histoire qui s'est répétée tellement souvent qu'on a l'impression que c'est un système? Ou est-ce que c'est plusieurs histoires? Et là, ça fait une différence aussi. Là. Est-ce que c'est 2 ou 3 organisateurs ou est-ce que c'est un réseau d'organisateurs? Parce qu'à ce moment-ci, on a un événement de financement avec un remboursement. On a l'histoire du député fédéral aussi qui n'est pas claire. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui qu'est-ce que Marois Risky savait qui a fait qu'elle a parti, qu'elle a renvoyé la chef de cabinet puis qu'elle n'a pas parlé à son chef. Parce qu'encore une fois, moi, je ne le sais toujours pas. Et ça, j'ai très hâte qu'on le sache. Et ça, tant que ça reste dans l'inconnu, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des libéraux. Donc, il y a vraiment de la lumière qui doit encore être faite. Là, pour les libéraux, il y a une opportunité extraordinaire. Imaginez, là, on est à 9 mois d'une élection. Les libéraux, depuis un moment, il y a beaucoup de libéraux qui se posent des questions. On trouve que Pablo Rodriguez n'a pas trop pris, que ses interventions sont compliquées, que sa communication est compliquée. Il a été absent pendant un moment. Puis les gens me disaient beaucoup, hey, quand on le voit à côté de Marois Risky, il a l'air moins bon qu'elle. Mm-hmm. Donc ça, c'était compliqué, la comparaison pour lui entre Marois et Pablo. Un choix, d'ailleurs, ses organisateurs n'ont pas pensé à ça quand ils ont fait le choix de Marois Risky comme chef parlementaire. Il faut que tu aies l'air meilleur que celui à côté de toi, sinon... Les gens se disent, pourquoi c'est lui le chef et pas l'autre?
Ben, en même temps, elle avait annoncé qu'elle quittait la politique, puis pourquoi mettre quelqu'un de moins bon que Marois Risky? Moi, j'ai de la misère là, par niveler vers le bas pour faire sortir quelqu'un vers le haut. Dans la vie en général, alors encore plus en politique quand on vient de parler de partis qui peuvent nous représenter puis gérer en partie nos vies. Victor, oui, tu voulais dire quelque chose?
Ben, t'as raison, mais à ce moment-là, il faut que ton chef il surperforme. Parce que Marois Risky doit devenir à ce moment-là la... l'espèce de gauge de réussite. Il faut que tu sois aussi bon qu'elle. Peut-être pas meilleur, mais il faut que tu sois aussi
c'est
bon.
À lui.
Et la comparaison ne le servait pas depuis plusieurs mois. Alors oui, ça va être compliqué. Les prochains mois vont être compliqués. Puis le prochain chef va avoir tout un défi. Mais l'opportunité, c'est que les libéraux peuvent refaire un choix et vont arriver avec quelqu'un de différent à la prochaine élection. Peut-être revoir leur casting aussi. Parce que clairement, la greffe de quelqu'un du PLC au PLQ, ça n'a pas marché. Alors là, il y aura des choix à faire, puis ça va être intéressant à suivre parce que il y a beaucoup, beaucoup de noms qui circulent, mais encore là, ce sera quoi les règles de la course? Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on va faire du financement à 500 $ ou est-ce qu'on va mettre une limite à 100 $? Moi, si j'étais chez les libéraux, je mettrais une limite à 50 $ quasiment pour être sûr qu'il n'y ait aucune discussion sur le financement.
Victor, il y a des gens qui se questionnaient, dont une de nos collègues qui trouvait ça étrange qu'il n'y ait pas de période de questions qui soit attribuée après le point de presse de Victor, de Pablo Rodriguez ce matin. Toi, tu trouvais ça étrange ou de notre part, Jean-François et moi, on trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire?
Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Puis C'est un choix très personnel. Je pense que de la part de Pablo Rodriguez, il y avait tellement de choses qui avaient été dites. Dans son discours, il a répondu à peu près à toutes les questions qui pouvaient être répondues, honnêtement. Ça aurait fait durer le supplice de la goutte, déjà qui a duré assez longtemps. On a l'impression que ça fait un mois qu'on vivait le calendrier de l'avant du scandale politique. Mais non, moi, je pense que c'était une bonne chose. Ça s'arrête là. Maintenant, il y a beaucoup de questions pour le parti. Ce que j'ai trouvé intéressant de leur part, c'est justement faire cette séparation. Donc là, on a Pablo Rodriguez qui quitte. On le voit sortir avec sa femme et avec sa fille. C'est comme la fin de quelque chose. Et là, les prochaines étapes, c'est quand le Parti libéral va annoncer les règles de sa course. On va commencer à entendre des noms. Charles Millard a dit qu'il attendait les règles de la course pour se prononcer. Carl Blackburn, on verra ce qu'il dit. Je pense que les libéraux peuvent se dire 18 décembre, on va aller profiter un peu du temps des fêtes. Puis on va s'assurer d'arriver avec les règles. Est-ce qu'ils vont avec les règles avant Noël ou après Noël? Je ne le sais pas encore, mais c'est ça les prochaines étapes.
Petite parenthèse, je sais que tu vas aller dans la succession, Jeff, je te vois. Je te connais maintenant assez pour ça.
Mais ça va être qui, Victor?
Mini parenthèse sur la famille. La famille qui était derrière Pablo Rodriguez, clairement touchée, sensible face à la situation. J'ai eu de la peine dans ce contexte-là pour eux. Tu sais, c'est très difficile à la base. Là, c'est presque humiliant aussi.
C'est difficile, c'est presque humiliant, mais c'est la chose à faire. Puis, tu sais, rappelons-nous quand Pablo avait fait traverser le pont, hein, le fameux pont Alexandria, t'es passé d'Ottawa à Gatineau, je reviens au Québec. Il l'avait fait avec sa femme et sa fille. Je pense qu'il y a une question de symbolique. On aime, les politiciens adorent les symboles.
Vrai, il avait traversé.
Et ça, c'était symbolique. J'ai commencé avec ma famille.
La grande marche.
J'ai fini avec ma famille. Mais c'est une aventure qui va avoir marqué ma vie. Tu sais, il l'a dit. Donc, tout ça est très symbolique. Il y a un côté, on pourrait mettre de la musique de film en arrière, puis on ferait une vidéo de quelques secondes. Mais c'est un besoin aussi de montrer qu'on n'est pas seul. Et ça, dans des scandales, c'est important de montrer que notre famille est avec nous parce que c'est très dur humainement. Et je pense qu'il y a aussi pour sa femme et sa fille le désir de montrer à Pablo, l'homme, que ce qui se passe à l'extérieur, ce scandale et tout ça, ça ne change pas ce qu'il est pour eux. Le mari, le père, l'être humain. Moi, je l'ai dit de façon très ouverte, je connais Pablo depuis plus de 25 ans. Plus de 25 ans que je le connais, que je le côtoie. On n'est pas des grands chums, mais je sais que c'est quelqu'un qui a une belle proximité avec sa gang. C'est quelqu'un qui, humainement, est agréable à côtoyer. Et c'est important pour sa famille de lui montrer ça. Donc, je pense que c'est ça le symbole qu'on veut voir. Et il a peut-être fait plus pour lui que pour le public. Mais c'est très dur humainement, puis on le dit beaucoup depuis quelques jours. Ce gars-là, à ce moment-ci, n'est encore accusé de rien. Et on n'a aucune idée si lui a commis un geste illégal. Mais il est imputable de ce que son organisation ou des gens qui ont voulu l'appuyer auraient pu faire.
Maintenant, Victor, tu es un haut ténor libéral ou tu es quelqu'un qui était dans la gang à Pablo Rodriguez qui ne veut pas voter pour Charles Milliard ou Carl Blackburn. Tu maraudes qui dans le temps des fêtes pour qu'il se présente au fil de départ? Tu sais, quand tu te présentes, là, c'est 100 mètres, là, puis là, tu en veux d'autres, là. Tu veux remplir des corridors. Puis là, il faut que tu maraudes des gens, tu sais, que tu as une opportunité, là. Tu sais, François-Philippe Champagne, il traversera pas. Mélanie Joly non plus, tu sais. Ça sert à rien, ça. C'est du temps perdu, là. Tu vas vers qui?
À la base, je pense que d'abord, je commence par aller vers quelqu'un qui n'a pas d'historique politique. Puis ça, c'est le gros changement par rapport à la dernière course. Dans la dernière course, on a entendu beaucoup Pablo Rodriguez et Carl Blackburn à la fin de la course, quand il est arrivé dans la course, marteler le fait qu'ils avaient de l'expérience en politique. Ça avait nuit à Charles Millard qui, lui, n'en avait pas. Mm-hmm. C'est drôle, mais un an après, c'est le contraire. Ne pas avoir d'expérience en politique, ne pas avoir d'historique au Parti libéral, c'est un gros plus pour un candidat.
Oui, parce que, petite parenthèse, Carl Blackburn, c'est les années Jean Charest, fait que...
C'est sûr que ça va lui être ramené sur le nez. Alors ça, c'est une réalité. Il faut que les libéraux soient conscients de ça. Maintenant, donc Charles Millard a pris pour moi de l'ampleur en termes de candidature. Son profil, son casting vient de changer parce que le besoin du parti a changé. Donc, je reviendrai sur Charles Millard après, mais tu m'as posé la question, Jeff, sur qui j'irais essayer. Je tenterais d'aller chercher. Moi, il y a deux noms que j'appelle le fantasme libéral, mais pour moi, ce sont deux profils qui donnent de la crédibilité à ce parti-là s'il décidait d'y aller. Le premier, c'est Guy Cormier, ancien président du Mouvement Desjardins, quelqu'un qui, économiquement, a cette espèce de profil à la Mark Carney, donc incontestable sur ses connaissances économiques, sur sa crédibilité économique. Les libéraux doivent retourner là où ils ont gagné. Et historiquement, les libéraux gagnent des élections quand on parle d'économie. Les libéraux ne gagnent pas des élections sur la protection du français puis l'identité québécoise, là. Les libéraux gagnent des élections sur des situations de crise économique, sur des situations de développement économique. Rappelons-nous les 100 000 emplois de Robert Bourassa, rappelons-nous 2008 puis la crise financière avec Jean Charest. Ce sont ça les opportunités. Donc, Guy Cormier, c'est un nom, j'appelle ça le fantasme parce que je ne sais pas s'il serait intéressé, je ne connais pas ses allégeances. La deuxième personne, c'est une femme, c'est Sophie Brochu. Sophie Brochu est pour moi une candidate qui, en termes d'intégrité, est reconnue comme étant une personne très intègre, mais aussi a une crédibilité économique, crédibilité d'affaires. C'est une femme brillante, c'est une femme qui a des valeurs aussi. Rappelons-nous qu'elle a quitté Hydro-Québec parce qu'elle était en confrontation avec Pierre Fitzgibbon. Donc, c'est une femme de principe. Pour moi, c'est ces deux personnes-là où je me dis, si j'avais à aller chercher le candidat ou la candidate idéale, ce seraient les deux noms que j'irais chercher. Il y a une chose, par exemple, il faut que ce soit réaliste. Et si ces gens-là disent non, je me rabattrais en embrassant très fort Charles Millard. Mm-hmm. Parce que Charles Millard a quand même un profil extrêmement intéressant. C'est un homme qui n'a pas d'historique, qui a un historique économique intéressant. C'est un pharmacien de profession, un homme extrêmement intelligent, qui se présente bien, qui amène un renouveau aussi en termes générationnels et qui, face à Paul Saint-Pierre Plamondon, peut démontrer, se démarque aussi parce qu'il a cette image plus jeune. Et face, par exemple, à un François Legault qui resterait en poste, ça viendrait donner une image intéressante aux libéraux. Donc, si ces deux personnes-là que je nomme disent non, je n'y reste pas trop longtemps, puis je dis à Charles Millard, on y va.
Charles Millard, je le vois peut-être plus, t'sais, rebâtir le parti pour l'élection 2026, puis plus accéder au pouvoir en 2030, contrairement aux deux autres noms que tu me nommes. Sophie Brochu, je trouve ça intéressant parce qu'on est en plein plan de développement d'Hydro-Québec.
Ben c'est ça exactement. Elle a des qualités extrêmement importantes. Rappelons-nous qu'elle siégeait aussi au Conseil de la Banque de Montréal. Donc, en termes d'économie, capacité à parler d'économie, c'est ce que j'appelle les crédibilités incontestables. Hein. C'est des personnages à Mark Carney. Mais moi, Charles Millard, c'est pas quelqu'un que je vais éliminer, au contraire, parce qu'il a déjà prouvé, lui, son attachement au Parti libéral du Québec en se présentant à une première course. Il a fini deuxième, pas très loin, d'ailleurs, de Pablo Rodriguez. Et je suis convaincu que dans les derniers mois, il a continué à augmenter sa compréhension du domaine politique aussi. Donc, des fois, c'est intéressant parce que, puis je me rappelle, pour les gens qui nous écoutent, pensons à Bruno Marchand, par exemple. Hein. Ces gens qui arrivent avec peut-être moins de notoriété ou une notoriété plus locale, mais qui surprennent aussi. À Montréal, il y a eu Valérie Plante dans le temps. Alors, si je suis chez les libéraux, je me dis, ben oui, peut-être que j'essaierai dans le temps des fêtes de voir s'il y a un intérêt chez les deux personnes que je t'ai nommées. Mais sinon, après ça, je mettrai tous les moyens du parti derrière l'augmentation de la notoriété d'un candidat à Charles Millard. Carl Blackburn voudra probablement y aller, mais pour moi, il y a un enjeu de casting. Puis là, je ne dis pas que Carl Blackburn est quelqu'un de corrompu ou qui a des enjeux d'éthique, pas du tout. Je considère que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'histoire à son sujet. Mais il vit avec le passé. Et ça, là-dessus, ben, à ce moment-ci, ça peut être un élément qui n'est pas... Ça ne le disqualifie pas, mais ça rendrait son travail plus compliqué.
Je pense qu'il ne faut tellement pas oublier quelque chose qui est en sous-couche, qui semble évident, mais en même temps, le mot « rassembleur ». Tu en parlais avec moi récemment quand Jeff était en pause puis je faisais le point de Max. On a fait un genre de 5 points, Jeff, que ça nous prend et qu'on souhaite en politique provinciale pour l'année 2026. Ouais. Victor a dit... être rassembleur. Le Parti libéral est divisé de l'intérieur. Même dans la course à la chefferie, t'avais Blackburn d'un bord, Milliard d'un bord, le monde se chicanait. Il est encore divisé. Pablo. Là, va falloir se remettre ses rails puis être tous ensemble et unis. Ça, ça semble facile. Ça risque d'être difficile.
Ça va être compliqué. Et pour ceux qui s'intéressent aux détails, vous irez regarder l'intervention de Charles Millard hier sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il a commencé en disant « Je viens de parler à Pablo. Ce fut une rencontre chaleureuse et je ne me souviens plus de l'autre mot. » Pourquoi c'était si important de dire « Je viens de parler à Pablo » Parce que justement, il veut être le candidat qui rassemble. Il n'a rien dit depuis le début. Et ça, là-dessus, Dimitri Soudas a dit publiquement « Brutus ne devient pas César ». Moi, quand Carl Blackburn est sorti en disant « Il doit partir », j'ai fait « Ah, mon Dieu ». C'est pourquoi il se qualifie comme ça, parce que si tu pousses l'autre vers la sortie, tu viens de diminuer tes chances de le remplacer. Charles Millard n'a pas dit un mot depuis le début de ce scandale-là. Très bien conseillé, d'ailleurs, bravo aux gens qui sont derrière lui, de dire « Hey, tu t'en mêles pas, tu touches à rien. Tu restes en stand-by au cas où. » Hier, il a montré qu'il avait parlé à Pablo, donc il y a un respect entre les deux. Et comme tu dis, Pascal, rassembler sera l'élément essentiel. Donc, il arrive avec cette capacité à rassembler. Charles Millard, ça lui prendra deux choses. La première, c'est d'avoir une organisation qui soit... ouverte à toutes les opinions. Parce qu'une campagne leadership, ça laisse des traces. Et je vous l'avais raconté, je pense, en début de semaine, À la fin de cette campagne-là, les partisans de Charles Millard étaient extrêmement frustrés et puis avaient eu des mots très durs envers les partisans de Pablo Rodriguez. Il va falloir rassembler tout ce monde-là. Le deuxième élément, c'est la capacité à attirer des candidats vedettes, des candidats crédibles. On parle d'économie. Les libéraux, s'ils veulent retrouver le terrain économique, Charles Millard a un profil intéressant, mais ça va lui prendre des candidatures qui veulent dire quelque chose pour les Québécois. Il faut faire oublier le dernier mois aux gens. Et c'est possible de faire oublier aux gens parce que, je vous le disais, la mémoire collective, elle est courte. Mais ça va prendre des noms, ça va prendre du contenu et ça va prendre une voix unique au Parti libéral du Québec.
Parlant d'unir, Victor, et on termine là-dessus le caucus Enriquez. Il y en a un qui n'a pas uni pantoute aux États-Unis avec son discours, c'est Donald Trump. On va en parler un peu plus en détail avec Luc Laliberté tout à l'heure, excellent chroniqueur politique en politique américaine, mais je veux t'entendre là-dessus. Une catastrophe.
C'était pour moi une catastrophe, puis je ne veux pas qu'on juge de Donald Trump. Moi, je considère que ça va être intéressant au bout des 4 ans d'analyser cet homme-là qui va probablement même changer la façon de communiquer globalement pour les politiciens. Mais hier, moi, j'ai vécu une torture de 16 minutes à l'écouter crier dans le micro, me raconter des choses qui ne faisaient aucun sens. Imaginez-vous qu'hier, on a appris que les médicaments ont baissé de 500% aux États-Unis.
C'était pas si
ça. Ça veut dire que les gens reçoivent un chèque à chaque fois qu'ils vont chercher des médicaments.
Non, mais je capote.
Mais ça se peut pas.
Il a réglé vulgaire.
C'était vulgaire, c'était dans une forme qui était désagréable à entendre. J'ai trouvé ça agressant. Et pas parce que l'homme est agressant, mais parce que, je veux dire, on utilise des vocabulaires tellement basiques. Ce grand beau projet de loi dont il parle, hein, de Beautiful Bill. Là, je suis comme, attends une seconde, est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence du citoyen pour trouver des mots un peu plus développés que le grand beau projet de loi qui finalement veut rien dire? Et c'est sur quoi ce projet de loi-là? J'entendais parler d'inflation, disait des faussetés, je l'entendais parler des tarifs, puis ce qu'il disait faisait aucun sens. Puis là, je me suis dit, attends une seconde, est-ce qu'on avait vraiment besoin du discours du Grinch à 7 jours de Noël? Vraiment, hey, j'ai hâte d'entendre Luc Laliberté en parler tantôt avec vous. Oui, le contenu, mais vous savez quoi? Moi, la forme a tellement été irritante que j'ai même pas entendu le contenu parce que j'étais comme trop irrité par le gars qui me criait après à la télé, puis que j'étais forcé d'écouter parce que on est des junkies d'actualité.
Exactement.
Donc, t'écoutes. Mais mon Dieu, que c'était dur. Je ne sais pas vous autres comment vous l'avez perçu. J'espère que vous l'avez pas écouté trop longtemps.
C'est la même chose, puis ça m'a ramené à quand il a fait son grand discours au retour à la présidence où l'on avait ovationné Elon Musk. J'avais trouvé ça d'une platitude. Puis celui-là avait duré 1h30.
Moi, je l'ai écouté au complet, puis j'ai pas de mots. T'sais. Au départ, j'étais comme, OK, ben, je vais laisser une chance parce que je qualifie qu'il y a beaucoup d'Américains très intelligents qui ont voté pour Donald Trump. Aussitôt que tu vas voter, pour moi, ça va de soi. Pour la première fois qu'il a été élu, j'avais parlé avec des Américains, j'étais en voyage, puis ils disaient, on a tellement souffert de la crise économique, pour nous, c'est un peu le sauveur. Mais honnêtement, deuxième mandat, j'hallucinais qu'on lui remette les clés de la Maison-Blanche à nouveau. Effectivement, le discours présidentiel, on dirait que c'est un show de rockstar, puis ils sont même pas des stars, là. On sentait qu'il montait sa scène, puis lui, c'est mon ami. Mais hier, c'était des mensonges.
Ah oui.
Puis là, je me suis dit, OK, si tu n'écoutes pas l'actualité, si tu ne regardes pas ce que ton président fait, si tu regardes juste ce qu'il dit, puis heureusement, il est en train de perdre une bonne partie de sa base, tu peux te faire leurrer, puis pas à peu près. Puis comment tu vas te sentir après? Comme un cave. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas te choquer. Et là, si tu te sens comme un cave, tu vas te choquer. Tu vas encore plus adhérer à Donald Trump pour certains, parce que tu vas dire, je veux être dans le déni de comment je me sens puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis moi, je me suis dit, Colin, il alimente ça. Puis il me fâchait.
Mais c'est une leçon pour tous. Tu sais, moi, c'est un discours que j'aurais entendu dans un événement de lutte. J'aurais trouvé ça super bon. J'aurais fait, mon Dieu, le show est bon.
Oui, mais c'est un fan de la WWE, c'est pour ça. Puis là, il est fâché que John Cena a quitté samedi. Il a dit, hey, c'est moi, vedette.
Exact. Là, il a pris toute la place. Tu sais, dans un show de lutte, j'aurais dit, OK, ça va, mais en politique, ça va pas bien. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, ça nous amène au fait que, comme citoyen, là, ça va être important qu'on trouve des façons de vérifier les faits en général. Il va se dire beaucoup de choses à la prochaine élection au Québec aussi. Faut faire attention, c'est pas trop loin de nous. On n'est pas à l'abri de ces grands discours qui semblent si extraordinaires, mais qui, dans le fond, disent de la bullshit. Ouais. Alors, ça, va falloir faire attention. On a tous une responsabilité par rapport à ça. Tu l'as dit, Pascal, il y a des gens très intelligents aux États-Unis qui ont voté pour Donald Trump parce qu'il y a une classe politique qui a échoué à être intéressante pour ces gens-là. Et au Québec, honnêtement, c'est un peu la même chose. des fois, il y a une classe politique qui échoue à être intéressant, qui échoue à avoir du bon sens. Et cette classe politique-là est responsable des Donald Trump de ce monde qui prennent le pouvoir. Alors, faisons attention dans la classe politique à comment est-ce qu'on gère ça, parce qu'on n'est pas à l'abri. Donald Trump, ce n'est pas nécessairement le remède à quelque chose, c'est le symptôme d'un désengagement puis d'une classe politique qui a échoué. Alors, c'est ça mon message. Faisons attention parce qu'on n'est pas à l'abri de tout ça.
T'as entièrement raison, Victor Henriquez. Je te souhaite un bon week-end et on se reparle dans la semaine du 5 janvier. Merci infiniment d'avoir été avec nous cette semaine.
Joyeux temps des fêtes à tous. Joyeux Noël. Une magnifique début d'année 2026. Puis merci encore. On se retrouve en début d'année prochaine.
Salut, Victor Henriquez.
Salut, merci.
Merci beaucoup. On fait une courte pause et par la suite, c'est Luc Laliberté qui va venir s'installer avec nous justement concernant ce discours de Donald Trump. Et on va vous faire quelques petites manchettes d'actualité également. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.